Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et comme tous les dimanches soirs à partir de 22h, c'est la causerie. Et la causerie, c'est qui? La causerie, alors on a Clara à la technique, mais elle est tout loin parce que vous le savez, on est toujours dans les conditions, pas du direct, mais presque du direct, mais quand même pas du direct. Donc on n'a pas assez de micro pour elle. Et la censure, dit-elle. Et on a aussi évidemment Fab qui est là.
Bonsoir.
Et donc, moi-même Jean-Yves, bonsoir. Et ce soir, on est en compagnie de Camille, qui est une autrice. Camille Elaraki, pardon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avant qu'on cause avec Camille, je vais quand même vite fait vous rappeler comment joindre la causerie, évidemment. Donc, il y a toujours le mail, c'est lacausericanu@gmail.com. lacausericanu@gmail.com. Vous retrouvez aussi les podcasts sur le blog de la causerie, donc c'est à blogs, avec un S à la fin, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous nous retrouvez sur certains réseaux, etc., etc. Vous tapez toujours la causerie Canu. Si on y est, vous nous trouverez. Si vous ne nous trouvez pas, c'est qu'on n'y est pas. Et voilà, je crois que j'ai tout dit pour ça. Et je passe le micro à Fab.
Alors ce soir, on s'amuse à se passer le micro, donc ça va être marrant pour vous qui écoutez, et aussi pour nous, parce qu'il y a un côté raquette et ping-pong. Alors oui, ce soir, on va parler littérature, ça arrive de temps en temps dans la causerie, donc c'est ce soir. Donc si tu n'aimes pas la littérature, tu peux t'en aller maintenant, et tu reviens dans à peu près 50 minutes pour écouter la chanson de fin. Et sinon, si tu as envie de découvrir une autrice super sympa et très très bien, tu restes, ça va être bien. Alors, on va commencer déjà par te présenter, Camille. Donc, qui es-tu? Qui es-tu, Camille? D'où viens-tu?
Alors, ça, c'est une grande question.
Ah, mais on a du temps, donc tu peux y aller.
Alors, je suis normande et marocaine, j'ai 28 ans. Après ça, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis prof en histoire en ce moment. Et puis, sur mes heures libres, j'écris beaucoup. Voilà ce que je peux dire pour commencer.
Moi, je vais te poser 2-3 questions quand même, parce que voilà. Pour essayer un petit peu... On sent ta timidité derrière un micro, alors on va essayer un petit peu de décoincer tout ça. Tu dis, je suis donc de double culture déjà,
oui.
Au départ. Et... quelque chose un petit peu indiqué peut-être aux auditrices et auditeurs, c'est que tu voyages aussi. Tu
oui,
as beaucoup bougé.
Vrai.
Parce
ouais.
que tu dis, je suis normande. Bon, tu n'es pas venu de ta Normandie vers Lyon. Tu as fait quelques détours. Alors,
j'ai vécu dans 5 pays. Donc, je suis née en France, mais à peine à mes 1 an, on a déménagé au Maroc. C'est le pays d'origine de mon père. Je suis restée là-bas pendant 6 ans. On est revenu ensuite en Normandie. J'y suis restée, j'ai stationné jusqu'à mon Erasmus. Là, j'ai passé 1 an en Espagne, en Andalousie. Et à partir de là, j'ai eu la bougeotte. Donc, à peine rentrée d'Erasmus, mon but là, c'était de partir le plus rapidement possible. Donc, j'ai eu mon diplôme 2 ans après. Je suis partie faire mon stage de fin d'études en Suisse. Et ensuite, je suis partie en Pologne. Je crois que j'oublie rien. Ouais.
Ah, et quand on voyage trop, on ne sait plus où on va, du coup.
Oui, c'est ça. C'est bon.
Donc, une globe-trotteuse citoyenne du monde.
Bah, européenne, ouais, pour l'instant.
Pour l'instant.
Ouais.
Des envies d'aller ailleurs ?
Oui, complètement.
Et alors, c'est où les ailleurs que tu as envie de visiter ?
Oh, j'aimerais beaucoup le Chili. Valparaíso, ça me fait rêver. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion encore.
Ouais, ce cher Covid, en plus, bloque un peu les choses.
C'est ça qui a bloqué la chose, oui.
Et donc, du coup, on te reçoit parce que tu as écrit un livre qui s'appelle « Allegria ».
Ouais.
Je ne le prononce pas trop mal, ça va.
Non, c'est bien.
Donc nous, en fait, alors, on ne va pas cacher ça aux auditeurs et auditrices, c'est toi qui nous as contactés, donc déjà merci, parce que c'est aussi une preuve de confiance entre nous et ça fait plaisir. Et tu nous as envoyé un petit mail en disant « bon, ça vous intéresserait ?» On a dit oui, on a reçu le livre. Je me suis dit « tiens, c'est, la couverture est sympa, on va peut-être regarder ce qu'il y a dedans ». Et puis, comme souvent dans la causerie, quand on aime, on invite. Donc... Vous le savez, on a aimé le livre, on vous le dit avant, en exclusivité. au moins, ça s'est fait. Et il n'y a pas de souci pour la suite. Vous n'êtes pas sur une émission littéraire où on se fait plaisir à torturer les autrices et les auteurs.
Merci.
Et alors, tu disais que tu écrivais, ça fait longtemps que tu écris, du coup ?
Oui, je n'ai pas de souvenir pour vous dire la première chose que j'ai écrite, parce que c'est trop loin, je pense. Mais ma maman est très littéraire aussi. Donc je pense que j'ai baigné là-dedans toute petite, déjà. Je me souviens pas quand j'ai commencé.
Mais ça t'a toujours accompagné, en fait.
Ouais.
T'as toujours gratté, pris un stylo, un papier, ouais, ou un ordinateur. Peut-être que ça fera plus moderne. Parce que là, d'un coup, je me suis dit, je suis vieux. pour écrire. Et donc, ça t'a toujours mis couché sur le papier. Alors, plutôt des choses personnelles ou plutôt de la fiction ?
Plutôt de la fiction. Quoique j'ai commencé une autobiographie quand j'avais 8 ans, mais normalement de la fiction.
Pardon, oui, on est toujours dans le jeu de micro. Donc là, ce soir, on va parler de Allegria, de ce roman qui est sorti, je le rappelle parce qu'on ne l'a pas dit, mais aux presses littéraires de Fribourg,
oui.
Faut le dire, parce que ça, d'ailleurs, ça nous posera des questions tout à l'heure, mais c'est... On peut dire que c'est ton deuxième livre, parce que finalement, ton trajet d'Erasmusienne, je ne sais pas comment on dit, ça doit avoir un nom, non ?
Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question.
Ah, j'aurais pensé.
Non, donc, je ne sais pas.
Du fait que tu aies fait Erasmus, en fait, ça t'a inspiré ou ça t'a amené à écrire un premier livre qui, si je ne me trompe pas, c'est Réussir son Erasmus en 2016.
Tout à fait.
Donc, c'était il y a 5 ans. Enfin, t'étais toute jeune. Tu sortais vraiment de ton Erasmus, en fait,
Ben, j'ai commencé en Erasmus.
Ok. Donc, alors là, on n'était pas du tout dans du roman. Hein. C'était, c'était quoi ? C'était un peu un outillage pour...
C'était ça. C'était un guide. D'ailleurs, le titre, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est l'éditeur. Mais à la base, c'était un petit guide de survie en Erasmus. Et je l'ai commencé parce que moi, j'étais toujours... très attirée par le voyage, mais d'un autre côté, partir un an alors que normalement on est chez maman, on voit papa, on a le copain, on est très très entouré par un cadre très familier, et puis d'un coup on se retrouve en Erasmus, j'étais terrifiée. Et je pense que si j'avais pas été à Sciences Po, j'y serais pas allée, parce que Sciences Po nous oblige en troisième année, on est vraiment poussé du nid, si on peut pas faire ça, on arrête quoi. Donc j'étais vraiment terrifiée, et je me suis dit c'est trop dommage parce que ceux qui ont pas qui ont le choix en fait et qui se disent comme moi j'aurais pu le faire plus tard, et puis finalement ils y vont pas, c'est vraiment trop dommage. Donc en fait à la base c'est pour ça que j'ai écrit ce livre là, c'était pour un peu déconstruire un peu toutes les peurs qui nous retiennent, et chaque chapitre fait référence à une peur précise, quoi.
Ok. Et j'avais une question que je viens de complètement oublier. Non, si, justement. Non, mais parce qu'on a, finalement, dans ta présentation, on a oublié ce passage-là, mais tu as fait une école de journalisme, ou en tout cas, tu t'es dirigé vers le métier de journaliste. Mm-hmm. Alors après, je ne sais pas si c'est une spécificité écrite ou audiovisuelle ou autre, mais tu as aussi fait ce cursus-là, en fait.
Ouais, en fait, bah, c'était le master de Sciences Po Rennes, spécialité journalisme. Et d'ailleurs, Erasmus, c'est ça qui m'a donné le déclic, qui m'a dit fais ce que tu as envie de faire, tu en es capable. Et là, j'ai changé de cursus parce qu'avant, j'étais à Sciences Po, mais en développement durable. Et après Erasmus, bah, j'ai changé de cursus pour faire du journalisme, pour revenir à l'écriture. Pas à la littérature, mais à l'écriture.
Oui, en fait, il y a chez toi un lien très fort avec l'envie d'écrire.
Oui,
sous toutes ses formes, en fait, finalement.
C'est ça.
Ouais, ça c'est quelque chose quand même qui souvent traverse les auteurs qu'on a pu recevoir. C'est le côté quasi, je ne sais pas comment dire, mais... incontournable dans leur vie, tu pourrais jamais ne pas écrire, en fait.
Non.
Voilà, c'est devenu vraiment une...
Ça m'arrive des fois de passer des mois sans écrire, mais ça manque, quoi.
Donc, il y en a d'autres, c'est la radio, il y en a, c'est l'écriture.
Voilà, c'est ça.
Donc, non, mais ouais, c'est vrai. On comprend bien cette espèce d'envie de ne pas perdre, en fait,
ouais.
Quelque chose qui, finalement, fait partie de nos vies, quoi.
C'est ça.
On fait une première petite coupure musicale. Et alors, qui c'est qu'on va écouter ? Bah, on le dira après, parce que c'est toujours comme ça. Allez, à tout de suite. We'll be right back. Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Alors nous, on n'a pas entendu ce superbe titre, mais vous, vous l'avez eu. Et Camille, notre invitée, va nous expliquer et nous dire pourquoi elle a choisi ce titre-là. Et d'abord, quel titre c'était ?
Alors, c'est Hit Above de Greta Van Fleet. C'est un groupe qui, en ce moment, enchante mes journées. C'est un groupe de 4 garçons, dont 3 frères, qui font de la musique un peu rock psyché que j'adore. Et en ce moment, j'écoute leur nouvel album en boucle, mais spécifiquement ce titre-là. Donc je me disais que l'entendre à la radio, ça serait sympa.
Mais tu as très bien fait, pardon, oui, j'oublie que j'ai pas de micro non plus, mais tu as très bien fait. Et la causerie, c'est aussi évidemment ça. Et en plus, quand on reçoit une invitée ou un invité, c'est justement une plongée dans son univers. Donc tu fais, mais à merveille, nickel.
Et en plus, c'est donc un nouvel album, un nouveau titre, une nouveauté. Et comme ça, ça montre qu'on est un petit peu aussi moderne, des fois, à la causerie. Ça arrive, grâce à nos invités.
Et donc, on rappelle quand même aux auditeurs et aux auditrices qu'on reçoit Camille et Laraki pour son roman Allegria, qui est édité par les presses littéraires de Fribourg. Et ben alors...
Tu peux dire les PLF aussi.
Ouais, les PLF, mais c'est pour que les gens captent bien que en fait, c'est édité en Suisse. Et on va peut-être pas commencer par ça, même si j'ai envie de te dire pourquoi en Suisse, en fait.
Alors, pourquoi en Suisse ? C'est une longue histoire. Bah, comme je l'ai dit, j'ai habité un peu en Suisse. Ouais. Et quand je suis allée là-bas, j'ai pas fait la même erreur qu'en Espagne, c'est-à-dire que j'y suis pas allée à l'aveuglette. Je me suis dit, je vais faire un couchsurfing pour commencer à... Bah, avoir l'occasion de rencontrer des gens quoi, sur place. Et mon coach surfeur, qui s'appelle Timmy, avec qui j'ai gardé contact, qui est très sympa, lui, il était très engagé culturellement dans la vie de Fribourg, qui est une petite ville entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Et du coup, il était très engagé dans le ciné... Le ciné-club, j'allais dire ciné-café, mais ça c'est à Lyon. Le ciné-club de Fribourg. Et au ciné-club, il y avait aussi beaucoup de littéraires et des membres de l'Épître, qui est une relève littéraire, un magazine. Je ne sais plus comment on dit. Non, ce n'est pas un magazine.
Une revue.
Merci.
Une revue littéraire.
Une revue littéraire. Et du coup, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes qui travaillaient à l'Épître. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Mathieu Corpato, qui est l'éditeur des PLF et l'éditeur aussi de l'Épître. J'ai commencé à travailler avec l'Épître. Ils ont publié des nouvelles à moi. Et ensuite, bah, j'ai envoyé mon roman. Et Mathieu l'a pris. Voilà.
Et justement, ce roman. Alors, c'est là, quand on connaît maintenant un peu ta vie, finalement, on y retrouve des choses. Alors après... C'est aussi le propre de l'écriture, c'est sûrement un mélange entre fiction et une part de soi, parce que finalement, dans ce roman, on va y retrouver un peu d'Erasmus,
oui.
On va y retrouver un petit peu d'Espagne, on va y retrouver d'autres choses qui sont certainement quand même un petit peu liées à ta vie, de ce que j'ai pu voir comme info sur toi. Et en fait... Allez, on va essayer de résumer un petit peu alors, pour donner envie et pas trop en dire, etc. C'est la vie d'Ola, jeune femme qui a juste le bac. Alors, on va appuyer là-dessus, mais c'est parce que ça, il y a une résonance à un moment donné dans le livre, qui cherche finalement. Alors, elle a sa vie à Paris.
Ouais.
Là, on comprend très rapidement perdu son père. Il reste sa mère qui est
un peu perdu aussi.
Un peu perdu aussi, ouais, c'est vraiment ça. Et elle a un mec, Ola, qui finalement est pas forcément le meilleur des mecs. Hein. et puis il y a finalement cette soif en fait de partir, parce que Ola, plus petite, a vécu en Espagne.
Oui.
Donc c'est là que c'est hyper intéressant de connaissance. Et finalement, on peut se dire mais tiens, donc c'est vrai, et c'est où la création. Et donc Ola va partir. Elle va partir et c'est finalement, moi je dirais, il y a presque une renaissance, il y a quelque chose, il y a un épanouissement en fait qui va arriver au fur et à mesure des rencontres.
Oui.
N'en dis pas plus.
Oui, en même temps, j'ai envie de dire tellement plus parce que elle va y rencontrer des gens que finalement tu as été, des Erasmusiens et Erasmusiennes. Et puis, enfin, il y a plein, vraiment plein de choses comme ça. Et donc, le roman est fait en deux parties. Mmh. On a cette première partie, justement, qui est sur Paris. Paris la glaciale.
Paris la grise.
La grise et la glaciale, ouais, etc. Il y a des événements, etc., qui vont arriver. Et puis, il y a cette deuxième partie et qui est, il y a Alegría. On peut peut-être rappeler ce que veut dire Alegría.
La joie.
La joie.
En espagnol.
Et effectivement, peut-être qu'elle va arriver à retrouver cette joie de vivre, d'aimer, de jouir de la vie, finalement. Mmh. Et j'ai tout dit, en fait. Non, je déconne.
je déconne.
Non, et en fait, c'est... déjà, comment t'en es arrivé à ce roman-là, en fait ? Est-ce que, justement... alors, pendant ton Erasmus, tu as écrit ce guide des Erasmus, mais est-ce que dans un coin de ta tête, il y avait aussi ce roman-là déjà, ou est-ce que c'est venu plus tard ? Enfin, si tu peux un peu nous dire comment t'es venue cette histoire de Ola.
Alors, en fait, c'était pas Ola, la première arrivée dans ma tête, c'était Pedro. C'est un personnage secondaire dont on parle pas beaucoup. Mais en fait, Pedro, c'est un vieillard, le voisin de Ola en Espagne, qui, d'ailleurs, Ola habite au 17 Calle Arboli. C'était exactement mon adresse à Cadix. Et c'est à Cadix qu'elle va aussi. Et Pedro, il existe, en fait. C'est, en vrai, il s'appelle Luis, et c'était mon voisin. Et en fait, Luis, un jour, il est venu chez nous. On avait une coloc. Et il est venu et il faisait de la peine parce qu'il était tout le temps tout seul et il distribuait des bonbons aux gens qu'il croisait. Donc Pedro, il fait pareil dans le livre. Et à un moment, il est arrivé chez nous et puis il a pris dans les bras ma colocataire qui était tétanisée, qui comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, c'est parti de là, quoi. Donc, c'est parti de Pedro, de ses bonbons, de ce contact avec ma colocataire. Et bah, en fait, ça a découlé de ça. Vraiment, au début, c'était que ça, quoi.
Mais, alors, c'est le point de départ, mais on va quand même le dire, c'est un peu, pour moi, c'est un peu une notion de quête, ce livre, ouais. Quelque part. On se cherche soi, on cherche ses racines, quelque part, même si... Est-ce qu'on doit rester accroché à ses racines ou pas ? C'est la grande question. Mais il y a une notion de quête dans le livre. Et moi, ce qui m'a interpellé et intéressé, c'est que la démarche du livre est très centrée sur le personnage. Alors, je ne vais pas te le cacher, j'ai lu des critiques où je me suis dit « les gens n'ont pas lu le livre » ou pas le même que moi. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé très agréable, justement, c'est qu'on reste finalement parfois dans le flou de ton personnage principal. Voilà, avec cette idée de pas trop en dire ou de pas trop savoir, et voilà. Et on avance, mais finalement, pour moi, le livre est aussi, pour le lecteur ou la lectrice, une façon de faire une quête, quelque part, aux côtés de quelqu'un qui en fait une. Et c'est très, très intéressant et assez puissant, finalement, pour un premier roman.
Merci. Mais c'est vrai que la quête est super importante parce que là, j'ai donné le point de départ. Mais en fait, Ola, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. C'est-à-dire que les idées se sont enchaînées. Et Ola, ce qu'elle fait, c'est un peu ce que j'aurais aimé faire et un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'elle, effectivement, elle a perdu son père au début d'un cancer. Quand elle était petite, 8 ans. Quand elle avait 8 ans. Moi, ma mère a eu un cancer quand j'en avais 5. Et en fait, toute la partie cancer, elle est véridique. Vraiment. Sauf que ma mère a survécu. C'est un point important.
Légèrement quand même. Voilà.
C'est un point important, mais tous les souvenirs de Ola qui reviennent en flashback, c'est mes souvenirs à moi. Donc, quand elle prend l'avion, qu'elle est toute seule, qu'elle est effrayée, quand elle griffe l'hôtesse de l'air, c'est pareil, véridique. Et enfin, donc, tout ça, c'est important parce que Ola essaye de faire le deuil de son père qui est mort. Et moi, en écrivant ça, c'était une façon d'essayer de faire le deuil d'un traumatisme, en fait, que j'ai porté longtemps et... ça m'a aidé quand même de le mettre sur papier, ce tous ces souvenirs-là. Donc oui, c'était une quête pour moi aussi.
Finalement, toute personne qui a ce livre dans les mains, de celle qui l'a écrit à celui ou celle qui le lit, bah, se retrouve liée à cette notion de quête, finalement.
Ouais.
C'est plutôt très intéressant. Ouais. Et alors, je vais le dire, ça a l'air comme ça super triste, mais en fait, c'est un livre qui est assez joyeux. non, c'est vrai, je veux dire, il est malgré tout assez solaire, quelque part. Et parce que voilà, ça touche des sujets qui sont graves, mais encore une fois, dans la vie, on côtoie des sujets graves. Mais bah voilà, il y a toute la vie concentrée dans ton livre. Et finalement, c'est voilà, il y a des moments joyeux, il y a des moments tristes, il y a des moments où on comprend pas tout, mais c'est normal, c'est comme dans la vie. Et voilà, moi je trouve que c'est là où est l'intérêt d'un livre pour moi. C'est la notion en fait, quand on le referme, on se dit. Ben, j'ai encore envie de savoir ce qui arrive à ce personnage après. Est-ce qu'elle va écrire la suite, tout ça, ou pas?
Je ne sais pas ce qu'est devenu Ola après.
Ben voilà, mais c'est très bien aussi. Mais moi, ça m'a fait ça. Je suis arrivée à la fin. Bon, elle en est où maintenant? Voilà. Et moi, j'avais une question, c'est que tu as donc mis deux endroits très différents dans ton livre, finalement. Paris la Grise, comme tu disais, et Cadix, la
perle andalouse.
Voilà, la perle andalouse, où la chaleur vous écrase, mais vous êtes tellement heureux d'être écrasé. Cette envie de dichotomie, je ne sais pas comment dire, de dualité, en fait, entre les deux, c'était quelque chose que tu avais anticipé ou c'est quelque chose qui est venu en écrivant, en fait, où d'un seul coup, cette rupture franche était le meilleur moyen, finalement, de créer la rupture dans ce livre, en fait?
J'y ai pas pensé. C'est venu un peu tout seul parce que l'idée, vraiment, à la base, c'était d'écrire sur Cadix parce que j'ai gardé une nostalgie très, très importante de Cadix. J'y suis jamais retournée, d'ailleurs. Mais du coup, j'avais envie d'écrire sur Cadix pour un peu m'y retrouver. Et Paris, c'est aussi une ville que j'ai vécue exactement comme Ola. J'étais dans un call center, des conditions de travail vraiment aliénantes, enfin, assez horribles, enfin, pas relativement, mais du coup, Ola est dans la même situation. Et c'était un point de départ, je pense, pour elle, de faire... C'est peut-être la rupture aussi d'essayer de montrer que quand je suis arrivée à Cadix, j'ai vraiment ressenti une rupture entre la France et l'Espagne. Et c'était peut-être aussi un moyen de montrer qu'elle aussi, elle vit la rupture vraiment entre Paris, qui est encore plus la France, entre guillemets, et l'Espagne, exactement solaire, chaleureuse. C'est un peu typique dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, moi. Je l'ai vécu comme ça quand j'étais en Espagne.
Ouais, moi, je vais continuer, bien sûr. Parce que vraiment, alors c'est peut-être parce qu'on lit aussi d'où on est, avec nos propres bagages, etc. Mais moi, je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes, en fait, sur... Déjà, c'est une Ola est la fille d'un médecin et d'une prof, je crois.
Alors, il est docteur en littérature comparée.
Oui, c'est vrai. Et que oui, effectivement, en fait, elle a entre guillemets juste le bac.
Ouais.
Donc là aussi, on peut se dire, tiens, est-ce que finalement ce traumatisme qu'elle a vécu enfant, est-ce que ça l'a pas tellement heurté que bon, bah, elle s'est arrêtée à ça. Et effectivement, elle est dans un call center. Enfin. Pour celles et ceux qui ont peut-être plus déjà écouté Radio Canu, on sait dans différentes émissions, mais les call centers, c'est des conditions absolument horribles. C'est le téléphone qui sonne tout le temps, vous faites raccrocher au nez, etc.
Ouais.
Enfin, c'est un rythme effréné, vous êtes surveillé, etc. Donc c'est assez horrible. Et même quand elle arrive ensuite en Espagne, elle va faire serveuse. Alors, encore une fois, vous connaissez suffisamment la causerie, il n'y a aucun mépris pour aucun métier et qu'on travaille souvent pour vivre, pour avoir de la thune. Et que, en fait, il y a... Alors, c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis, je parle d'où je suis, mais c'est que cette rencontre, je trouve, entre cette meuf qui se débrouille comme elle peut et qui va d'un coup rencontrer des gens qui ont des bagages culturels, de réseau aussi, enfin, je veux dire... Les études, c'est beaucoup ça quand même. Enfin, je me rends compte avec le recul, c'est que les gens qui vont à l'université, etc., c'est aussi du réseau qu'on fabrique, enfin, qu'on construit. Et qu'il y a un peu un choc de classe sociale, si on a envie de dire. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est pensé ou est-ce qu'il y a un lien avec même peut-être ton vécu? Et tu peux aussi ne pas vouloir répondre. Hein. Mais je trouvais que cette rencontre finalement entre deux mondes qui n'est pas vraiment censé se rencontrer et qui en fait va être aussi... Enfin, bref, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi? Voilà, je sais pas si tu as envie d'y répondre, je sais même pas s'il y a une réponse à donner.
En fait, c'est vrai que vous me posez des questions sur est-ce que j'ai anticipé beaucoup de choses, mais en fait, non. Quand je l'écrivais, je l'ai écrit à Wrocław en Pologne, et je rentrais souvent chez moi en me disant mais où ça va? Et je savais vraiment pas. Par rapport à ce que j'avais écrit la veille, je continuais sur ma lancée, sur des idées qui venaient. Et j'anticipais pas forcément. Et du coup, c'est hyper intéressant d'entendre d'autres personnes en parler parce que je vois des liens que je faisais pas avant. Mais oui, Ola, elle a que le bac. Je sais plus pourquoi. Je voulais pas qu'elle ait fait d'études. Mais c'est vrai qu'elle est, elle côtoie seulement des gens qui, eux, ont fait de grandes études. Et que Erasmus, c'est des étudiants. Donc forcément qui ont un bagage. Mais elle, finalement, elle a aussi un bagage parce qu'elle a vécu en Espagne, donc elle parle mieux espagnol que les autres Erasmus. Elle parle pas anglais, par contre. Alors que le monde Erasmus, même en Espagne, c'est un monde anglophone. Donc c'est aussi intéressant de voir la confrontation d'un bagage qu'on a par son vécu et un bagage donné par des études. Ça montre un peu cette différence-là.
Eh bien, pour vous laisser réfléchir à tout ça, nous allons faire une toute petite pause musicale assez longue parce que notre invité a choisi des titres très très longs. Alors, peut-être qu'on mettra que des extraits, on verra comment on va tourner ça.
Et c'est du rock, c'est pour ça.
C'est vrai, et on se retrouve juste après.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Patience.
sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et évidemment toujours à l'écoute de La Causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et on est toujours en compagnie de Camille Lara qui, toujours pour son roman Allegria. Et on vient de s'écouter...
Les Guns N' Roses, Patience, ça c'est un... J'ai essayé de prendre un titre assez calme, des Guns... Parce que bah, c'est mon groupe préféré, donc pareil, j'avais envie de les entendre à la radio, parce que ça se fait pas assez. Donc voilà.
Mais t'as des goûts de vieille, en fait.
Oh, c'est les années 90, quand même.
C'est pas faux, mais ouais, enfin bon.
Tu sais, c'est les années où t'avais déjà 20 ans.
Et il tourne encore, et il passe au Hellfest l'année prochaine, donc oui.
C'est vrai.
Oui.
Et donc on est toujours en compagnie de Camille. On parle toujours de Allegria. Alors on va essayer de pas trop vous en dire, mais de vous donner envie, mais pas trop en dire parce que sinon c'est gâcher tout ce plaisir de la lecture. Et on peut peut-être aller un peu plus sur comment en fait t'as rédigé tout ça, parce que c'est marrant justement dans l'échange qu'on a pu avoir avant la musique, c'est que tu disais ben moi j'ai pas une construction du départ en fait. Donc en fait ça se passe comment? C'est-à-dire que tu te mets face à ton ordi, tu... Non, je vais pas dire tu vomis des mots, mais...
c'est un peu ça, des
fois. Ouais, mais alors moi je l'utilise pour moi, hein, vomir des mots, c'est un lâcher en fait complet ouais. De ce qu'on a. Est-ce que c'est comme ça que tu fais? Est-ce que t'as un plan préétabli? Est-ce que...
Alors, j'ai pas de plan. En général, c'est comme tu dis, c'est-à-dire j'ai une page blanche Word et puis je commence à sortir des mots. En général, bah, comme je disais, il y a une scène que je trouve assez intéressante à développer en mots. Donc là, c'était la scène de Louis, du coup, qui devient Pedro, qui vient chez moi et qui fait un câlin à ma coloc. C'est parti de là. Et après, il y a des scènes, j'écris cette scène-là, et puis il y a des idées qui vont me venir. Et au bout d'un moment, quand j'ai écrit Allegria, je m'étais imposé 15 pages par semaine. Donc 15 pages par semaine. Et du coup, les pages s'enchaînaient, les idées s'enchaînaient. Après, au niveau du plan, c'est plus quand je reviens sur le livre, une fois que toutes les pages, toutes les scènes sont rédigées, et que je me dis « Ah, peut-être que ce passage-là, en fait, il irait plus là. » Et que je vois des indices que je pourrais mettre au début par rapport à la fin. Et là, du coup, ça s'étoffe. Et c'est peut-être là qu'on peut voir des liens en tant que lecteur entre le début et la fin, alors que moi, quand je l'écrivais, il n'y en avait pas du tout, quoi. Voilà.
Bah, ça, c'est la preuve que vous pouvez essayer d'écrire vous aussi. Parce qu'on en parlait, alors... On va vous raconter. On a fait un très bon repas avant de venir.
Très bon.
Voilà. Donc, et du coup, on en parlait à table. Et c'est vrai que cette notion d'avoir la peur d'écrire, elle existe chez beaucoup de gens. Mmh. Alors toi, tu disais, dès l'enfance, tu as eu envie d'écrire et ça t'accompagne. Mais il y a des gens qui ont envie, mais qui n'osent pas.
Oui.
Tu aurais envie de leur dire quoi ? Tenter, c'est vachement bien ?
Je pense que tout le monde a un peu cette angoisse de la page blanche. Je l'ai aussi. Ma mère l'a aussi, qui écrit aussi. Et avant de se mettre à écrire, on a toujours, c'est bizarre, mais une petite angoisse. On ne sait pas pourquoi. Peut-être on a peur de voir qu'est-ce qui va sortir de nous. Mais finalement, une fois qu'on se met au travail, on laisse passer 2 minutes, on se dit « Allez, j'écris n'importe quoi, une phrase. » Et puis au bout d'une phrase, on a envie d'en écrire une autre, puis une autre qui arrive plus facilement, etc. etc. Et puis finalement, cette angoisse, c'est quoi ? Parce que vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous écrivez à qui que ce soit, ça vous appartient, et puis donc faut relativiser, c'est une peur totalement irrationnelle. Voilà, faut y aller, quoi. Comme en Erasmus, voilà. C'est irrationnel la peur de partir, donc c'est la même chose. La peur de l'inconnu, peut-être.
Oui, c'est ça aussi. Et peut-être la peur de se dévoiler aussi, parce que quand on écrit, finalement, on se dévoile.
On se dévoile, mais justement, c'est l'inconnu de nous-mêmes qui fait peur, ouais. Peut-être.
Et on en revient à la quête.
Voilà.
La quête de soi et la quête en général. Moi, j'avais une question sur la façon dont tu construis tes personnages. Alors, tu disais, il y a des gens qui existent. D'autres que tu as sûrement inventé ou que tu as mixé avec des amis ou des proches que tu connais qui se reconnaîtront et qui du coup te détestent à l'heure actuelle.
Il y en a qui se sont reconnus, oui.
Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton écriture, c'est la capacité que tu as justement à donner de la profondeur à tes personnages en très peu de mots. Et c'est hyper agréable parce que du coup... on n'a pas de mal en fait à imaginer ce qu'il y a derrière tes descriptions, comme on dit souvent. Enfin voilà, le caractère des gens, les unes et des autres, il nous vient assez naturellement. Et dans la vie, en fait, est-ce que toi tu observes beaucoup les gens ? Parce que je me suis dit quand je t'ai lu.
Est-ce que je suis sociopathe ?
Non. Non, c'était pas le sens de ma question. Mais c'est vrai que tourner comme ça. Et vous avez envie de tuer des chatons le soir ou pas ? Non, mais vraiment, je me suis dit, tu dois aimer, en fait, croquer les gens. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, croquer de façon dessinée. Parce que là, je trouve que tu as une capacité vraiment à rendre les gens vivants très facilement. Et je pense que tu dois le faire couramment quand même. C'est pas juste pour ce livre, tu te dis, tiens, je vais essayer comme ça.
J'aime bien analyser les gens. c'est un peu chiant d'ailleurs, mais...
Donc sociopathe, en fait.
Après, je dis pas que j'arrive à les analyser, mais j'aime bien analyser les gens et j'aime bien m'analyser aussi. Des fois, je fais des choses que je comprends pas tout de suite et après, je me demande, et pourquoi j'ai fait ça ? Et ensuite, je me pose toujours la question, et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et à force, j'ai des réponses. Et je crois que je le fais aussi pour les autres autour de moi. Donc.
Mais on t'en veut pas. Hein. on a juste un peu peur là maintenant, mais jusque-là, ça allait. Non, mais c'est vrai que du coup, oui, on voit que. Alors, je vais le dire comme je le pense, mais peut-être. T'as un certain amour des gens, en fait, j'ai l'impression. Enfin. Moi je trouve ça transpire un peu dans ton livre la différence, l'altérité, les gens différents en fait t'intéressent et
ouais.
Tu cherches pas à avoir que des gens qui te ressemblent autour de toi je pense parce que...
Non, j'aime bien rencontrer des gens, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien voyager et le couchsurfing et tout ça, enfin j'aime bien rencontrer des gens que j'aurais pas pu connaître de façon prédéfinie quoi, J'aime bien mettre des gens sur mon chemin, ou me mettre sur le chemin des gens, plutôt, que j'aurais pas pu rencontrer dans des conditions normales, entre guillemets. Et c'est vrai que je suis un peu bisounours dans ce qu'on, enfin dans cette idée-là, que les gens, en général, je leur fais beaucoup confiance tout de suite et je les aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens que je déteste, mais quand je les déteste vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main.
On va les citer donc, du coup, non. Non, mais alors déjà, moi, bisounours, c'est pas un gros mot, moi je trouve. On est dans un monde où justement aujourd'hui, quand les gens sont bons, tout simplement, enfin quand ils sont positifs, on les classe comme ça tout de suite de façon un peu négative et on se classe nous-mêmes en disant ah, je suis un peu bisounours, c'est tout. En fait, moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir confiance en l'humanité plutôt que de la détester.
Hein. Oui, c'est cool d'être bisounours.
Voilà, et voilà. Moi je me dis, pourquoi c'est toujours négatif de dire bah moi j'aime bien les gens. Bah c'est bien d'aimer les gens quand même. Parce qu'aujourd'hui on valorise plutôt les gens qui disent moi je déteste les autres. Bah non. Ouais. Et juste quand même, là maintenant que tu as fini Allegria, parce que là tu en fais maintenant la promotion, comme on dit, c'est un gros mot, mais voilà. Tu as d'autres romans sur le feu, tu as d'autres envies qui te sont venues.
Alors,
tu t'es dit, il faut vraiment que je continue.
Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Il y a un roman graphique que je fais avec une dizaine d'illustrateurs. Où justement, bah, quand on parle de la différence, etc., là c'est un roman graphique sur les Français qui viennent d'ailleurs. C'est un recueil de portraits. Donc, de 9 personnes qui vivent en France, mais qui sont soit réfugiées, soit immigrées, soit enfants d'immigrés. Et moi, qui ai une fibre journalistique, c'était super intéressant de rencontrer ces personnes-là. Donc, y a ce projet-là qui est en finalisation parce que ça va être repris du coup par Libé. Ensuite, là, je finis un livre avec ma maman. Un conte pour enfants, donc pareil, on est en correction et je finis un roman de moi-même du coup, sans ma maman.
un roman toute seule comme une grande.
Voilà, c'est ça.
J'aime beaucoup parce que finalement tu t'installes pas dans un style, dans un truc et que finalement c'est aussi se remettre un peu en danger finalement. Alors après, danger est toujours relatif,
voilà,
hein, comparé
relatif,
à d'autres qui sont bien plus dangereux, mais c'est marrant en fait, enfin que t'arrives à t'adresser à différents publics, etc. Et puis enfin, j'ose espérer que on se reverra peut-être justement aussi pour ces autres œuvres, parce que à la cause, on est assez ouvert quand même, je crois, et y compris pour des choses pour les enfants, parce que justement je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, ou alors que
ouais,
dans des
vrai.
Émissions très spécialisées pour les parents, alors qu'en fait on peut en parler où on veut. Donc, au plaisir vraiment de te recevoir pour d'autres choses.
Mais avec sa maman, du coup.
Avec ta maman. Et non, alors, je voudrais juste quand même aussi qu'on précise aux auditeurs et aux auditrices qui voudraient se procurer Allegria et qu'on vous conseille fortement, si vous ne l'avez pas compris. En fait, il faut passer par le site internet de la maison d'édition.
Des PLF, tu vois.
Ouais, donc c'est, je me le suis noté, attention, c'est PLF du milieu tiré du 6. Donc PLF-édition au pluriel, donc .ch. Donc c'est par ce site-là que vous pourrez acheter Allegria. Donc n'hésitez surtout pas, vraiment pas, parce que c'est vraiment c'est très très beau en fait, parce qu'il y a autant du spleen et une forme de tristesse et de nostalgie et de mort aussi, elle est quand même là assez présente, et qu'en même temps il y a une jouissance de la vie, il y a une découverte des choses. Et que c'est, enfin, ça fait vraiment du bien, parce que je pense que l'humain, pourtant c'est le dépressif qui le dit, mais
c'est pour ça que j'étais surpris, moi.
Et non, et que justement l'être humain, il est tout ça, et qu'il n'est pas non plus que du négatif, il n'est pas que du positif, mais c'est un savant mélange des fois peut-être excessif de l'un ou de l'autre. Mais voilà, enfin vraiment, c'est Allegria, enfin t'as l'impression de le crier, parce qu'il y a vraiment, c'est ça quoi. C'est et donc allez-y vraiment, on le rappelle, Allegria au PLF de Camille Ellaraki. Et est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale là ?
Oui.
Il a dit oui. Alors on fait une petite pause musicale.
up, and God only knows how I've messed up. And on the palm of her hand is a blister, and I need.
Vous êtes de retour pour la dernière partie de la causerie ce soir avec Camille El-Araki qui est avec nous pour son livre Allegria, qu'on vous invite à vraiment à lire et acheter, encore une fois, on va le dire moult fois. On vient d'écouter un titre qu'elle a choisi et c'était
She's Electric d'Oasis.
Et alors pourquoi ?
Bah, Oasis, c'est ma grande découverte grâce à mon copain. Là, je suis obligée de le dire pour le coup. Je connaissais pas Oasis il y a encore 2 ans et quand j'ai commencé à écouter, j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc, j'avais envie de mettre un titre d'Oasis, mais un titre qui est un peu justement qui est joyeux, qui est. Je trouvais que ça collait bien avec le thème de ce soir, du coup.
C'est vrai. Et puis bon, maintenant, c'est un peu dur d'écouter Oasis. Hein. C'est un petit peu splitté.
Oui, oui, oui. Bah là, pour le coup, là, j'ai des goûts de vieille, pour le coup.
Mais il en faut. Non, mais parce que sinon, plein de radios disparaîtraient si les gens n'avaient pas des goûts. Du coup, on arrive à la fin de cette émission, comme je disais. Est-ce que tu as des gens à remercier ou des envies ou des coucous à passer ou des choses comme ça?
Tellement, tellement. Du coup, ma maman.
On la salue, elle a un prénom peut-être.
Sylvie.
Voilà.
Sylvie Lemonnier.
Voilà.
Donc Sylvie Lemonnier, mon papa Abdelrani Tantawi El-Araki, la famille.
Les amis.
Les amis, mais particulièrement une, Imane, qui est une amie de très longue date et qui, elle, est ma lectrice bêta de tout ce que j'écris depuis toujours. Donc elle... Elle n'a pas peur de me faire des critiques parfois très dur. D'ailleurs, la première version de ce livre-là, elle m'a dit « Si je l'ai fini, c'est parce que je t'aime ». Donc, ça m'a invité à le retravailler en profondeur. Merci, Imane. et puis, Edouard aussi, qui m'accompagne tous les jours. Donc, voilà.
Eh ben, merci à toi d'être venu, vraiment. C'était un plaisir de te recevoir. On espère que si tu as l'envie, tu reviendras pour d'autres aventures, du coup. On va dire ça comme ça, d'autres aventures littéraires. Nous, on va se quitter en rappelant... Ah bah, c'est Jean-Yves qui va le faire, parce qu'il veut le faire.
Ah oui, oui, forcément. On part du livre, donc on rappelle encore une fois Camille Ellaraki pour le livre Allegria. C'est au PLF, je ne vais pas le redire, hein, au PLF, et on le répète, vous ne trouverez pas le livre sur les sites que vous connaissez habituellement, etc.
Surtout pas Amazon.
Voilà. Donc, je le répète, c'est PLF-6, édition au pluriel.ch. Évidemment, vous retrouverez tous ces liens-là sur le blog de l'émission. Si je répète des choses pas bien, etc., vous allez sur le blog de la causerie, vous aurez toutes les informations et on vous conseille encore une fois, évidemment, la lecture d'Allegria. Et puis, merci à toi de nous avoir contactés, de nous avoir offert finalement cette lecture, cette échappée dans le monde de Dola. Et puis, on se quitte avec...
Ah non, on va pas se quitter tout de suite. Moi, j'ai juste une petite parenthèse à faire. Alors, c'est totalement causerie à ancienne personne passée dans la causerie. On va souhaiter un grand merde à Théo Charaf, qui a la chance de faire une première partie aux Nuits de Fourvière. Et franchement, Théo, si tu nous entends, on sait que tu flippes, mais tu vas déchirer comme d'habitude. Mais voilà, c'est juste un petit coucou, parce que bon, il est passé retrouver son émission. Voilà, c'était un vrai plaisir de l'avoir lui aussi, et c'est un vrai plaisir de voir ce qu'il devient. Donc on te recevra quand tu auras le prix Goncourt, évidemment, Camille, la prochaine fois.
Et on se quitte avec un dernier titre qui a été encore une fois choisi par Camille. Tu peux peut-être nous le donner.
C'est Hey Jude des Beatles. Yes. Parce que si on parle d'Oasis, il faut parler des Beatles.
Ouais. Et retenez bien ce titre et ces artistes, parce qu'il y en a certains, en tout cas ces derniers, vous les retrouverez peut-être dans Allegria. Et on vous souhaite quoi ? Une bonne semaine ? On vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours 22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu. Et en attendant, évidemment, il y a plein d'autres émissions, les bandes continuent, tout ça, c'est formidable Radio Canu. Mangez-en.
Et du coup, des bisous et à bientôt.
Et Clara, elle est au studio technique et elle vous fait un grand coucou. Elle ne peut pas le dire parce qu'elle n'a pas de micro, mais le cœur y est. Elle ne fait pas de bisous, mais elle vous dit bonsoir. Allez, des bisous, ciao, à bientôt.
Hey Jude, don't make it bad. Take a side.